Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. 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 Différence.
Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian au micro, aujourd'hui accompagné par Stéphane. Bonjour Stéphane. Par Thierry.
Bonjour Christian, bonjour tout le plateau. Stéphane, bonjour Isabelle et bonjour notre célèbre invité.
Voilà, c'était bonjour, un long bonjour. Merci Thierry.
Et bonjour aussi à Sébastien à la technique.
Bonjour à tous, on parle souvent des maladies rares, mais sait-on vraiment de quoi il s'agit? Comment obtenir un diagnostic pour une maladie qui n'est souvent pas connue ou peu connue par son médecin? Comment accompagner les malades dans leur vie au quotidien ainsi que leur entourage, alors que leur vie s'apparente souvent à un parcours du combattant? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir notre invitée Aurélie Berland, qui est chargée de projet Maladies rares Occitanie. Bonjour Aurélie.
Et bonjour à tout le monde.
Et merci d'être avec nous à Café & Co. Alors tout d'abord, comme je le demande à tous les invités, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Mais bien sûr, donc moi je suis Aurélie Berland. Donc, comme tu l'as dit, je suis chargée de projet à Maladies rares Occitanie. Et donc, du coup, voilà, je fais plein de choses à Maladies rares Occitanie.
Maladies rares Occitanie, en quelques mots, de quoi s'agit-il?
Donc, en fait, il s'agit d'un dispositif régional qui vient en soutien et en appui aux professionnels sur toutes les questions de maladies rares, avec comme objectif d'améliorer le parcours des personnes qui vivent avec une maladie rare.
Et toi, donc, tu es chargée de projet, en quoi cela consiste
hein? Et bien, donc, du coup, moi, j'ai des missions un peu transversales. Donc du coup, je m'occupe donc de projets qui sont des projets de création d'outils, comme des outils là, un petit peu de fiches mémo ou de choses comme ça. Je m'occupe pas mal du partenariat aussi et du coup du lien avec les associations de patients.
Alors après cette petite présentation, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à Stéphane.
Ah, on parle de maladies orphelines, quelles sont les différences?
En fait, les maladies rares, donc une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins de une personne sur 2000. Et une maladie orpheline, c'est une maladie qui est orpheline de traitement, donc qui n'a pas de traitement. Et en fait, souvent, on lit les deux parce que la plupart des maladies rares sont des maladies orphelines, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de traitement.
Concernant les maladies rares, vous parlez d'errance diagnostique. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus?
Alors oui, l'errance diagnostique, c'est une très très grande problématique dans les maladies rares. Faut savoir que pour un quart des patients, il faut attendre au moins 5 ans pour avoir un diagnostic et ça peut aller jusqu'à plus de 30 ans. C'est vraiment une problématique qui est très importante dans ce domaine. Et en fait, ça concerne vraiment tout le monde, les enfants et les adultes. C'est des personnes qui restent souvent en errance, c'est-à-dire que du coup, elles vont avoir beaucoup de consultations, elles vont aller voir un médecin puis un autre, un spécialiste et un autre spécialiste, faire de nombreux examens, des fois même des interventions ou des choses comme ça qui sont même pas appropriées. Et du coup, pendant tout ce temps-là, on n'a pas le nom de la maladie et on ne peut pas donner le traitement adapté.
Qu'est-ce qui explique que les médecins généralistes ont du mal à identifier ces maladies rares? Est-ce qu'ils les abordent dans leur formation? Est-ce que c'est parce qu'il y en a trop? Comment vous expliquez cela?
Alors, en effet, il y a entre 6000 et 8000 maladies rares, donc forcément, le médecin généraliste ne les connaît pas toutes. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, c'est abordé dans les études de médecine, mais du coup, au milieu de plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'au moment où, du coup, il y a une personne qui se présente en errance de diagnostic, ben, on ne va peut-être pas forcément d'abord penser à la maladie rare. On va d'abord penser aux maladies un peu plus connues. Donc avant que le médecin généraliste pense à la maladie rare, ben des fois, ça demande un petit peu de temps.
Ça veut dire qu'ils vont attribuer une maladie qu'ils connaissent à la personne et que du coup, elle ne va pas recevoir les soins adaptés à sa situation?
Alors ça, c'est une possibilité. Ça veut dire qu'il peut y avoir en effet un faux diagnostic. Donc il y a un premier diagnostic qui est donné et en fait, du coup, on s'aperçoit peut-être des fois longtemps après que ce n'était pas le bon. Et après, ça peut être aussi simplement que la personne ne sait pas et du coup continue à adresser, donc soit à adresser à d'autres nouveaux spécialistes, soit à un moment, du coup, le professionnel même lui-même, le médecin généraliste, ne sait plus vraiment vers qui orienter le patient qu'il a en face de lui.
Le fait que Céline Dion médiatise la maladie de l'homme raide contribue à déstigmatiser les maladies rares et leur impact dans le quotidien des personnes. Est-ce que toi, tu as observé une évolution et une prise de conscience plus importante ou pas ?
Alors, c'est une bonne question, parce que nous, on essaye justement de surfer un petit peu sur cette vague-là, de dire, en effet, il y a des personnes qui médiatisent leur maladies rares. Et en effet, c'est un super bon moyen de parler des maladies rares en général. Alors après, est-ce que je vois une différence aujourd'hui ? Je ne peux pas la voir. Parce que avant que ça ait vraiment un impact réel qui est visible, voilà, à notre échelle en tout cas, je ne peux pas le voir, mais forcément ça contribue. C'est-à-dire que chaque personne qui est un petit peu médiatisée, qui remet ce sujet des maladies rares sur la table, c'est un gain pour tout le monde.
Vous expliquez qu'il y a beaucoup de maladies rares, mais certaines sont beaucoup plus médiatisées que d'autres. Je pense notamment à la mucoviscidose avec les virales de l'espoir ou à d'autres maladies. Est-ce que du coup, elles ont toutes les mêmes fonds au niveau de la recherche ?
Alors, les fonds pour la recherche dans les maladies rares, il y a différentes sources de financement. Ça peut être des financements par des associations. Donc, en effet, il y a certaines associations qui ont beaucoup de moyens pour pouvoir financer ces recherches, et notamment par l'intermédiaire du Téléthon, qui est assez médiatisé. Et donc à ce moment-là, ça peut en effet favoriser des équipes de recherche. Sur des maladies un petit peu plus rares, donc il y a aussi des financements qui sont des financements publics et qui donc du coup là permettent à des laboratoires aussi de pouvoir faire des recherches sur ces maladies. Mais en effet, ça reste toujours un peu une problématique qui est souvent au cœur un peu de la recherche, c'est où trouver un peu les moyens.
Comment faites-vous connaître votre association et auprès de qui communiquez-vous ?
Alors, Maladies Rares Occitanie, nous, on s'adresse à tout professionnel. Donc, ça peut être des professionnels dans les hôpitaux, mais aussi ça peut être des médecins, des paramédicaux, des assistantes sociales, des travailleurs sociaux de façon générale dans les structures. Donc, pour se faire connaître, on va taper un peu à toutes les portes, pour être honnête. On essaye, vu qu'on est aussi sur toute l'Occitanie, on essaye du coup de communiquer auprès des regroupements, au lieu d'aller voir par exemple tous les médecins généralistes ou tous les travailleurs sociaux, on essaye de s'adresser à des regroupements. Donc je parlais tout à l'heure des URPS, donc c'était... C'est un regroupement de professionnels de la même profession sur une région. Donc on essaye de passer par l'intermédiaire, mais donc ça c'est une façon. Mais d'autres façons, c'est aussi par l'intermédiaire des personnes en direct, des associations de patients. Et ça peut être aussi par des actions, on va dire, un petit peu plus locales. Donc par exemple, là on organise des rencontres annuelles. Donc tous les ans on va rencontrer un peu les professionnels sur un territoire. Donc là cette année par exemple on va dans l'Ariège. Donc c'est un territoire où on n'est pas encore très connu, mais on se met un petit peu en lien aussi avec les professionnels qui font de la coordination de parcours dans ces départements pour justement toucher un maximum de monde.
Et concrètement, vous leur apportez quoi ces professionnels ? C'est de la formation, de la sensibilisation de...
Alors oui, on fait de la formation et de la sensibilisation. Donc la sensibilisation vraiment un peu sur les maladies rares, pour comment repérer une maladie rare, qu'est-ce que c'est qu'une maladie rare. On fait aussi des formations sur comment accompagner des personnes qui vivent avec une maladie rare. Et puis, du coup, aussi, on peut leur proposer des outils, donc des outils qu'on crée et qu'on leur met à disposition pour leur faciliter un peu le travail au quotidien. Et enfin, on fait de l'appui en direct. Donc là, c'est les professionnels qui peuvent directement nous contacter via notre formulaire de demande. Et là, on a une équipe avec pluridisciplinaire, avec médecins, infirmières et assistantes sociales qui peuvent répondre à ces professionnels sur des questions qui concernent une maladie rare ou une errance de diagnostic.
Parce qu'un particulier, donc quand il a un doute s'il pourrait être concerné par une maladie rare, il doit s'adresser d'abord à un professionnel de santé, pas directement à vous. C'est bien cela, si j'ai bien compris ce qu'on voulait sur votre site.
Exactement, vous avez tout compris, c'est ça. Si jamais vous êtes concerné par exemple par une errance de diagnostic, l'idéal c'est de voir votre médecin généraliste et du coup de demander à votre médecin généraliste de nous contacter et puis du coup mes collègues pourront venir du coup l'aider.
À l'origine, vous êtes une association de patients ou de professionnels de la santé ?
À l'origine, en fait, pour la création, c'était un peu mixte parce que c'était un médecin généticien de Montpellier qui était avec Alliance Maladies Rares, qui est une fédération d'associations de patients. Donc c'est ensemble qu'ils ont créé Maladies Rares Occitanie à l'époque, qui était autour de Montpellier.
À titre personnel, pourquoi vous vous engagez dans cette situation ?
Alors, c'est une très bonne question aussi. Alors, à titre personnel, j'ai toujours un peu baigné dans les maladies rares, parce qu'avant, je faisais de la recherche en laboratoire de recherche sur les maladies rares. Et puis ensuite, du coup, j'ai voulu un petit peu continuer, mais du coup, sur un versant un petit peu plus, pour créer un petit peu du lien et faciliter un peu les parcours des personnes. Et donc là, j'ai rencontré Maladies Rares Occitanie un peu par hasard, parce qu'eux cherchaient aussi à ce moment-là quelqu'un pour développer la partie sur Occitanie Ouest, donc toute l'ancienne Midi-Pyrénées, où du coup on n'existait pas avant. Moi j'étais à Paris à l'époque et je voulais un petit peu bouger de Paris et je voulais aussi changer un petit peu d'orientation tout en restant un peu dans les maladies rares. Et là c'était en effet l'offre rêvée, quoi.
Donc maintenant, nous allons parler, Thierry, un petit peu de toi, si tu veux bien.
Mais
tu vas passer d'intervieweur à interviewé. Donc, tu nous expliquais en début d'émission que tu es toi-même concerné par une maladie rare. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler son nom et nous dire un peu comment tu as vécu cette situation ?
Bien, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, je me tourne vers toi, Aurélie.
Mais parle bien dans le micro quand même, Thierry.
Et je me tourne vers toi, Aurélie, mais à l'ensemble du plateau. Et donc, tout cela s'est déroulé en fin 2003, début 2004. Et tout est parti d'une crise d'épilepsie qui est remontée et au niveau du sternum et qui m'a fait une crise d'angoisse. Et celle-ci s'est dirigée vers carrément le cœur. Et c'est ce qu'on m'a diagnostiqué, une crise et de syndrome de Brugada. Voilà. Et à l'époque, c'était bien la première maladie inexistante qui avait été détectée. Et les cardiologues n'avaient jamais connu ça. Et donc, j'ai été bien le premier à avoir cette même maladie sur Toulouse et sur la France entière.
Ah oui,
et
quand même.
Peut-être même dans le monde.
Et on parlait d'errance médicale. Est-ce que pour toi, le diagnostic a été compliqué à obtenir ? Est-ce que ça a mis des années
Non, quoi ? Ça a mis des années. Ça a mis du jour au lendemain. Mais enfin, bon, on a réussi à me positionner un DAI, que l'on appelle un défibrillateur applicable, implantable, au niveau du muscle et du pectoral, au niveau de la poitrine, voilà. Et on a été obligé quand même, et à maintes reprises, de m'opérer, de me réopérer, voilà. Et j'ai été bien le premier à avoir ceci. Mais bon, aujourd'hui, je vis sans m'en apercevoir et sans me prendre la tête.
D'accord.
Je fais avec. De toute façon, je n'ai pas le choix.
Bien sûr. Et tu disais qu'on t'a diagnostiqué cette maladie au début des années 2000, mais est-ce que tu l'avais depuis toute ta vie ou c'est quelque chose qui t'est arrivé ?
Non, c'est quelque chose qui est arrivé brutalement.
D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec ton handicap, c'est deux choses différentes.
Ah non, non, non.
D'accord, ouais. C'est pas la cause de ton handicap. D'accord.
Ouais. Non, non, ça n'a rien à voir. Après, bon, de part et tout d'autre, j'ai eu une surdité très très grave et voilà. Et bon, après j'ai eu voilà.
Je sais pas si Stéphane ou Sébastien ont des questions ou sinon Aurélie, que t'inspire ce témoignage de Thierry.
Ben, Du coup, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu comme tu disais, le fait du coup de pas que tu étais un petit peu le seul à avoir cette maladie-là, c'est quelque chose voilà, qui est assez typique un petit peu dans les maladies rares. Alors moi, du coup, j'ai une question peut-être pour toi.
Oui, oui.
C'est finalement, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir à toi, le fait d'être justement le seul à avoir cette maladie ?
Je n'y ai jamais prêté attention. Et je...
Ok.
Je ne me suis pas pris la tête ou... Bon, c'est sûr que je l'ai vécu très, très, très difficilement. Mais bon, maintenant, bien heureusement, et merci à Dieu, hein, qui en 2003, quand même, ce sont quand même mes deux chiens que j'avais sur place, dans ma maison principale, hein, qui m'ont sauvé. Hein, car c'est un bosseron et un caniche hein, qui m'ont sauvé et qui ont alerté hein, tout le quartier.
Ah oui.
Et ils ont hurlé à la mort et ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et principalement et précipitamment, hein, quelques heures plus tard, hein, 12 heures plus tard, 15 heures plus tard, je me suis réveillé dans quatre murs à Rangueil, sans savoir où c'est que j'étais, puisque moi, ça m'avait fait un trou, un mur noir complètement, sans savoir où c'est que j'étais, dans quelle ambiance j'étais, dans quel univers j'étais. J'ai réappris à vivre et je ne savais pas marcher. Puisque j'avais perdu la marche complètement.
Voilà. Merci Thierry pour ce témoignage émouvant. Aurélie, au-delà du témoignage très sincère que vient de nous faire Thierry, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, toi, dans ton association, donc, elle concerne les professionnels, est-ce que tu as un contact malgré tout avec des malades et qu'est-ce qu'ils expriment comme difficulté le plus souvent dans leur vie au quotidien ?
Alors du coup, oui, on est en contact avec des personnes qui sont touchées par la maladie rare, par l'intermédiaire un peu de notre mission aussi, de laquelle j'ai un petit peu moins parlé, de faciliter un peu la dynamique associative sur la région. Donc c'est l'idée un peu de mettre en lien les associations et de leur permettre aussi un peu d'exprimer leurs besoins. Et dans ce cadre-là, en effet, on est un peu en lien. Et donc ce qu'elles expriment, c'est... Alors, il y a énormément de choses un peu dans leur, qui impactent leur quotidien. Il y a souvent la question de... leur reconnaissance de leur handicap et de l'adaptation aussi, la compensation de leur handicap qui revient assez souvent.
C'est compliqué avec la MDPH, par exemple, pour faire reconnaître ce type de maladie, s'ils ne sont pas très répertoriés, pas très connus, du moins, comme handicap ou...
Exactement. C'est que, en fait, déjà, c'est toujours un petit peu, des fois, ça peut être difficile d'avoir une reconnaissance, mais dans le cadre d'une maladie rare, en fait, toutes les difficultés, on va dire, des maladies plus connues sont amplifiées. Parce qu'en effet, bah, du coup, les professionnels de la MDPH ou de la CDAPH connaissent moins les maladies rares et donc du coup peuvent du coup avoir des solutions qui sont moins adaptées. Et donc pour ça, bah, y a notamment ce que disait tout à l'heure Laurent dans sa présentation, certaines associations maladies rares qui viennent siéger en CDAPH justement pour parler des maladies rares dans ces instances. Et puis après sur les autres problématiques. Ça revient aussi un peu sur le fait de faire connaître sa maladie auprès des professionnels. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes, quand elles vont chez leur médecin, c'est elles qui expliquent ce que c'est que leur maladie à leur médecin ou la maladie de leur enfant. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui sont assez typiques, en tout cas qui reviennent assez souvent. Mais après, voilà, je pense qu'il y en a tellement sur l'adaptation au niveau de la scolarité ou de la vie professionnelle, sur justement les questions d'errance diagnostique, d'accès aussi aux examens génétiques, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Comme il y a un grand nombre de maladies rares, elles sont toutes répertoriées malgré tout. Il y a un répertoire officiel des maladies rares ou c'est compliqué ou...
Alors oui, tout à fait, il y a un répertoire des maladies rares qui s'appelle ORPHANET, donc O-R-P-H-A-N-E-T, ORPHANET. Et donc ORPHANET, c'est un travail donc de longue haleine qui est effectué par une équipe qui est une équipe INSERM et en fait qui répertorie toutes les maladies rares. Et pour la plupart d'entre elles, donc pas forcément pour toutes, il y a un descriptif un peu de la maladie et aussi des conséquences que ça peut avoir sur le quotidien.
Et est-ce qu'aujourd'hui, avec les progrès d'intelligence artificielle, on peut arriver à créer des outils pour les, notamment pour les professionnels de santé, qui vont leur permettre peut-être à partir des symptômes d'identifier une maladie ou...
Alors en effet, il y a ça. Je pense que sur les grands progrès là qui vont arriver un peu sur la question du diagnostic, l'aide au diagnostic par l'intelligence artificielle peut être vraiment un très très bon outil. Sachant que du coup, c'est vraiment une aide pour le médecin, que le médecin restera un peu au dernier maillon un peu de cette chaîne pour trouver le diagnostic. Mais en tout cas, ça peut vraiment orienter. Et il y a des gens qui travaillent vraiment là-dessus, qui collectent en fait beaucoup de données sur les diagnostics qui existent aujourd'hui, sur ce qu'on sait sur les maladies rares, pour permettre en effet de développer cette intelligence artificielle dans laquelle on pourra rentrer les symptômes et puis du coup avoir une idée par exemple de certaines maladies qui pourraient sortir de ces symptômes et à partir ensuite faire confiance ensuite au médecin pour confirmer ou infirmer ce que l'intelligence artificielle va pouvoir donner.
Aurélie, avant de conclure, je voulais juste te poser, si tu permets, une dernière question, parce que je crois qu'on n'a pas abordé le sujet. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer quelque chose que tu as abordé, qui était très intéressant dans la conférence? Donc, je te laisserai le redire, je te dis juste pour que tu aies l'idée. C'est le fait que même si les maladies rares, si j'ai bien compris, concernent peu de personnes, chaque maladie rare, finalement, comme à toutes les maladies rares, ça concerne beaucoup de monde. En fait, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ça mieux que moi?
Alors, exactement. C'est-à-dire que chaque maladie rare concerne peu de personnes, mais quand on prend l'ensemble des personnes qui sont concernées par les maladies rares, eh bien, en fait, ça fait une personne sur 20. Et une personne sur 20, ça fait à peu près 3 millions de personnes en France. Donc ça fait 300 000 personnes en Occitanie à peu près. Donc oui, ça concerne beaucoup de monde. Donc les maladies sont rares, mais les personnes qui sont touchées par ces maladies sont nombreuses.
Voilà, qui montre que c'est important au moins pour les professionnels de santé, voire pour tout le monde, de s'intéresser à ce sujet.
Exactement.
Aurélie, merci pour cette rencontre et pour ta participation. Alors avant de te quitter, vu que voilà, tu as participé aujourd'hui donc, et à une conférence dans le café à l'occasion de la journée mondiale des maladies rares, qui était officiellement, je crois, le 25 février, également à cette interview, je voudrais savoir comment tu as trouvé ce lieu et voilà ce que tu en retiens.
Alors ce lieu, Café & Co, je le connais depuis quelques mois quand même maintenant, voire même un petit peu plus d'une année, parce qu'en fait c'est ici qu'on vient faire nos cafés interasso, donc à peu près tous les deux mois. Et donc je trouve que c'est vraiment un lieu très chouette et je trouve que dans l'idée qu'on avait de ces cafés, de faire du lien entre les personnes, de leur donner la parole aussi, de leur donner la place, de leur donner la voix, je trouve que ce lieu est tout à fait approprié parce qu'il est un peu dans cet esprit-là aussi, de donner un peu une place à tout le monde. Donc on est très content d'y être accueilli assez régulièrement et encore plus aujourd'hui d'être venu y faire une conférence et puis l'émission de radio.
Et Aurélie, merci.
Merci beaucoup, Aurélie.
Merci à vous.
Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Radio & Co.